Père, nous te louons et nous te bénissons. Parce que ce matin, Seigneur, tu vas aussi édifier les enfants par ta parole, comme nous aussi, nous avons besoin d'être renouvelés, Seigneur, pour reprendre, Seigneur, vraiment les fondements de ta parole dans chacune de nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es celui qui règne, et nous voulons que tu règnes dans nos vies, dans nos pensées, dans nos préoccupations, Seigneur, et que nous puissions toujours fixer nos regards sur toi, le chef, le consommateur de notre foi. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Jean, chapitre 19. C'est le passage qui nous relate la mort de Jésus. Et nous allons lire quelques versets, et pas l'ensemble du chapitre, mais quelques versets à partir du verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige l'hysope, une éponge inhibée de vinaigre, et l'on approcha de sa bouche. Et quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Les évangiles, donc il y a quatre évangélistes, relatent le ministère de Jésus. Et concernant sa mort, en fait, les détails qui sont là sont les seuls qui sont mentionnés par Jean. Ça ne veut pas dire que il y en a qu'un qui le relate et que les autres ne le précisent pas. C'est parce que effectivement, ce sont des témoins. Hein, et Jean était témoin de ce que Jésus a dit. Il était auprès de la croix. Les autres étaient partis. Hein. Mais Jean est resté avec Marie, donc la mère de Jésus, et donc il relate ce point parce que lui était témoin de ces paroles du Christ. Juste avant d'approfondir un petit peu ce qui s'est passé à la croix, en particulier les sept paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et ces paroles sont importantes, parce que c'est Jésus qui les a prononcées, mais en plus, ce sont les dernières paroles qu'il a laissées. Vous savez que les dernières paroles sont souvent très importantes, parce qu'une sorte d'héritage, quelqu'un qui meurt, il dit un peu ce qui est le plus important pour lui, et donc on va regarder ces paroles. Mais au préalable, je voudrais juste faire une petite remarque sur un fait divers qui m'a accroché cette semaine, vous l'avez certainement entendu, que les scientifiques sont tellement enthousiastes d'avoir découvert, à leur avis, l'équivalent de la Terre dans l'univers. Alors, imaginez que ce qu'ils ont découvert, c'est à des milliards d'années-lumière. Donc pour y aller, il faudrait des millions au moins d'années-lumière à 300 000 km à la seconde, ce qu'on n'arrive pas à faire, pour y aller. Donc voyez un petit peu l'enthousiasme, hein, c'est vraiment de l'enthousiasme qui a emporté l'ensemble des radios, et tout ça pour spéculer sur l'idée qu'il y aurait de la vie à cet endroit-là. Tout simplement parce qu'ils ont vu dans les télescopes, c'est même des télescopes qui sont pas visibles à l'œil, hein, qui ont donné des informations comme quoi il y aurait une planète dans une exoplanète, puisque c'est pas la même galaxie, qui aurait la même taille que la Terre et que il y aurait près d'un soleil, etc., etc. Voilà. C'est pour montrer un enthousiasme. Hein, c'est vraiment un enthousiasme. Tout ça parce que ils cherchent la vie. Vous voyez, c'est la recherche de la vie qui est derrière. Et ils ont fait tous des commentaires que effectivement on pourrait avoir la vie sur cette planète parce que il y a les mêmes conditions que sur la Terre, etc. Mais tout ça c'est spéculatif parce que on peut même pas voir sur cette planète. C'est tout un tas de spéculations. Mais alors un enthousiasme extraordinaire. Alors que pour Pâques, où on parle de Jésus qui est la vie, il n'y a pas du tout cet enthousiasme, hein. Mais je crois que nous devrions porter cet enthousiasme, hein. Parce que si nous ne le portons pas, qui est-ce qui va le porter, hein. Et tout ça parce que aujourd'hui, on est dans un monde scientifique, rationnel. On veut comprendre les choses et on sait que le plus important c'est la vie, parce que une fois qu'on n'a plus de vie, bah il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Voilà. Ça... Donc c'est normal que la vie soit une préoccupation majeure pour l'homme. Mais la vie, c'est quoi? C'est tout le problème. La vie, c'est quoi? À quoi ça sert, etc. Et le problème de la vie, même pour les chrétiens, parfois, et je voudrais juste faire une petite précision là-dessus, c'est pas toujours évident. La vie, c'est quoi? La mort, c'est quoi? Vous voyez? Il faut bien réfléchir à ces notions-là. La vie, la mort. Pour que notre témoignage soit clair par rapport à ceux qui nous entourent. Très souvent, la mort, même pour un chrétien, c'est important. Ce qui est important, c'est la mort physique, biologique, hein, ou zoologique, si vous voulez, tout ce qui est bios, tout ce qui est le vivant. Hein. Et bien sûr, quand quelqu'un meurt, c'est très poignant. Parce qu'il y a déjà l'émotion, il y a le départ, il y a tout l'entourage qui est affecté par ce départ. Voilà. Et on pense que vraiment la mort, c'est une absence de la vie physique, de la vie biologique. Or, que dit la Bible? Est-ce que c'est ça, la vie? Est-ce que c'est l'absence de ce fonctionnement humain, de ce fonctionnement biologique, hein, comme les plantes ont la vie, les animaux ont la vie, nous on a la vie, ok? Est-ce que c'est ça qui est le plus important? La vie. Est-ce que c'est la vie physique? Je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que vous êtes très perplexe à ma question, mais je m'explique peut-être certainement mal. Ma question c'est, le monde se préoccupe de la vie. Et ils sont prêts à mettre des millions, voire des milliards. Moi, j'ai travaillé dans l'espace, enfin, aérospatial, je faisais des satellites, et on prépare sur 20 ou 30 ans des projets, même jusqu'à 50 ans, des projets qui n'aboutiront que dans 50 ans. Hein. Parce que il faut des technologies, il faut ce qu'on appelle la recherche et développement pour arriver à construire des projets qu'on imagine, hein, pour explorer la vie. Et sur Mars, par exemple, tout le monde va aller sur Mars parce qu'on pense qu'il y a de la vie. On pense qu'il y a de la vie dans le sous-sol, qu'il y a de l'eau. Voilà. Et on pense que la vie est dans l'eau. Et s'il y a de l'eau, quelque part, il y a la vie. Parce que toute la vie peut se démarrer à partir de l'eau. Donc l'eau est vraiment ce qu'on recherche dans l'univers pour trouver quelque chose qui ressemble à la vie et auquel on peut se raccrocher. On peut, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc on dépense des millions. Actuellement, vous voyez, les Français sont prêts à aller dans la rue à cause du gouvernement qui prône l'austérité, hein, même s'ils disent que ça n'en est pas, mais voilà, avec toutes les mesures, eh bien, vous allez encore vous serrer la ceinture. Et donc ça, c'est le gouvernement ce qu'il peut faire, mais la vie, quand on la cherche, où est-ce qu'on va la trouver? Et c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Est-ce que la vie, c'est ce que nous voyons dans notre corps physique, et l'absence de vie, eh bien, c'est la mort. Est-ce que c'est ça le plus important? Alors, c'est quoi la vie pour vous? Il y a deux aspects, oui. Mais est-ce que la vie biologique, elle est intrinsèque, c'est-à-dire elle existe en soi, ou est-ce qu'elle dépend de quelque chose d'autre? Où est-ce qu'elle est la vie, en fait? Est-ce qu'elle est dans l'eau? La vie, elle est dans l'eau? Oui, mais les hommes aujourd'hui, dans le monde, ils disent que c'est dans l'eau. Je regrette. Moi, j'ai encore entendu France Inter, il y a quelques jours, c'est ça. La vie est dans l'eau. Donc, il faut savoir, vous voyez, qu'est-ce qu'on croit aujourd'hui? C'est ça. Et qu'est-ce que les chrétiens croient? Voyez-vous? Ça, c'est très, très important. Pardon? Pardon? C'est quoi, Jean 7:3? Alors, pour dire simplement les choses, qu'est-ce qu'il faut dire? La vie est en Dieu. La vie est en Dieu, c'est tout. Elle n'est pas dans l'eau. Il faut appeler les choses par leur nom. Seul Dieu a la vie. Alors lui, il a créé des choses, c'est-à-dire la créature biologique dont on parle, c'est une création, et Dieu a mis la vie dans cette création. Donc, effectivement, la vie est dans l'eau, mais c'est Dieu qui l'a mis parce qu'elle n'est pas dans l'eau, elle est en Dieu. Voyez-vous? Simplement pour être très, très clair. La vie est en Dieu. Donc les gens qui cherchent pas Dieu, ils peuvent jamais trouver la vie. Vous voyez où je veux en venir? Alors, moi je respecte les gens qui cherchent de l'eau. Bon, enfin, chercher de l'eau dans l'espace sidéral au détriment des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, je veux dire, il y a quelque chose qui cloche un peu, hein. Voilà, au niveau de la justice sociale, on cherche beaucoup la justice sociale. Voilà, il y a quand même un gros hic là. Qu'on cherche l'eau, c'est pas un problème, mais qu'on cherche la vie dans l'eau, c'est là qu'il faut se dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on a la tête. Voyez, alors que la vie est en Dieu, la vie est en Dieu. Dieu est celui qui a créé les choses et il a mis la vie. Et pourquoi l'homme a perdu la vie? Pourquoi l'homme y meurt? Pourquoi l'homme y meurt? Pourquoi les plantes y meurent? Pourquoi les animaux y meurent? Pourquoi la vie biologique s'arrête? Pourquoi? Pardon? À cause de quoi? Pardon? Oui, il y a une meilleure réponse, mais... Non? Il y a une meilleure réponse. Pardon? Voilà, c'est la séparation. Ah, t'as des bonnes réponses, hein, ce matin, tout. Il faut qu'ils reviennent. C'est la séparation avec Dieu. Bien sûr, le péché sépare. Mais c'est la séparation avec Dieu. Dieu est la vie. Voyez-vous, on va résumer un petit peu, hein, pour que je perde pas votre attention, là. Parce que j'ai l'impression qu'au départ, ça patinait un peu. La vie biologique. La vie animale, si vous voulez, ou la vie zoologique, ou tout ce que vous voulez, la vie, voilà. Elle vient de Dieu. Parce que Dieu est la vie. Il n'y a pas d'autre vie qu'en Dieu. Il n'y a que Dieu qui est la vie. Dieu, il a donné la vie à Adam et Ève, à cette créature qu'il a créée, et il a dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Donc la mort est une conséquence de la désobéissance, mais de la séparation avec Dieu. Parce que Dieu s'est séparé. À partir du moment où ils ont désobéi, Dieu s'est séparé parce qu'il est saint. Et là, il y a un acte profane, de profanation. Donc du coup, il s'est séparé. Et c'est la séparation entre l'homme et Dieu qui fait que la vie, elle n'existe plus. Voyez-vous? C'est la séparation. Donc être séparé de Dieu, c'est ne plus avoir la vie. Alors un chrétien qui accepte Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Eh oui, il reçoit la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On est d'eau et d'esprit. On est la vraie vie. Si vous voulez, vous avez déjà une vie naturelle. Ok. Vous avez une vie naturelle. Mais cette vie, vous savez qu'elle est comptée. À un moment donné, elle s'arrête parce qu'il y a un processus de dépréciation du biologique, donc de la chair. Mais à partir du moment où on reçoit Jésus, on reçoit la vie. Et ça, c'est la vie éternelle, parce qu'on reste avec celui qui est la vie pour toute l'éternité. Voyez-vous, c'est ça la vie éternelle. C'est être avec Dieu. Être avec Dieu. Lui qui est la vie. Et donc, cette relation, c'est la vie. Et l'absence de relation, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus, une fois qu'on a compris ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus, il est Dieu. Okay? Mais il a pris la condition de l'être humain pour porter le péché, la culpabilité et recevoir la condamnation qui était juste pour ses péchés. Mais la mort ne pouvait pas le retenir puisque il est revenu dans la présence de Dieu puisqu'il n'avait rien fait de mal. Il a juste fait un projet. Il est rentré dans un projet de Dieu. qui était le projet de rédemption. Et quand ce projet était terminé, et c'est un projet pour l'humanité qu'il a fait, eh bien, tout simplement, il est rentré dans la présence de Dieu, il avait la vie. C'est-à-dire que la vie ne pouvait pas, elle ne pouvait pas lui échapper. Et la vie, c'est pas le fait que son ancien corps ait repris vie, il a reçu un nouveau corps. Et donc, par là, il anticipe la nouvelle création que nous aurons. Quand nous serons avec Dieu, quand nous perdrons ce corps que nous avons aujourd'hui, nous recevrons un nouveau corps, comme Jésus, et c'est ce projet qu'il a mené, cette nouvelle création qui a été anticipée à Pâques. Donc voyez, Pâques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un, c'est le message que si nous restons attachés à Dieu, nous avons la vie. Donc la mort ne peut pas nous atteindre. La mort atteint notre corps, notre vieux corps, notre corps adamique, mais nous avons l'espérance que nous aurons ce corps de résurrection que Jésus a reçu à Pâques. Et nous vivrons ce projet que Dieu avait pour l'humanité, nous le vivrons pleinement avec lui. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, on n'a même pas besoin de dépenser un centime pour vivre ce projet, alors que ceux qui dépensent des millions et des milliards pour trouver de l'eau, ils vont trouver de l'eau. Et c'est tout. Voilà, ils vont trouver de l'eau. Voyez-vous ? Mais c'est incroyable comment on peut vraiment monter des projets extraordinaires pour pour trouver de l'eau. Alors je sais pas, bon entendeur salut. Moi je préfère trouver Jésus. Jésus qui me coûte rien du tout, parce que c'est gratuit, le salut est gratuit, et qui me donne la vraie vie, cette vie éternelle, parce que c'est un présent de Dieu, parce que maintenant il n'y a plus rien qui me sépare de Dieu, parce que Jésus a accompli toute chose à la croix. Amen. Voilà, donc vous voyez, ça m'a fait vraiment réfléchir cet enthousiasme pour cette planète qui, voilà, on ne pourra jamais dialoguer avec ces gens-là, hein, si jamais ils existent. Hein. Mais l'enthousiasme pour Jésus, eh bien, il n'y est pas. Il n'y est pas parce que on ne sait pas ce que c'est que la mort, on ne sait pas ce que c'est que la vie, on ne sait rien du tout. On spécule sur un tas de choses. Et là, les chrétiens doivent vraiment être présents pour donner le sens de la vie, de la mort, pour donner le sens à l'existence que Dieu nous a donnée. Amen. Alors soyons ces porteurs de projets de vie. Je voudrais revenir aux dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix. Ici, il y en a deux. Mais quand on prend l'ensemble des évangiles, il en a prononcé sept paroles. Vous voyez, il y a des gens qui, sur le lit de mort, eh bien, ils ont un certain nombre de réactions. Par exemple, Voltaire qui était l'écrivain profane, lorsque sur son lit de mort s'est adressé à son médecin, il a dit « Je suis abandonné par Dieu et par les hommes. Je vous donne la moitié de ma fortune si vous prolongez ma vie de 6 mois. » Voltaire. Des fois, sur le lit de mort, on a comme ça des réactions. Je sais pas ce que rajoute 6 mois, mais voilà, ça c'est réaction de Voltaire. Thomas Hobbes, qui est un Anglais, qui est reconnu pour avoir détourné de la foi des grands hommes en Angleterre, s'est écrié sur le point de mourir. « Si le monde entier m'appartenait, je le donnerai pour vivre une journée de plus. Je sens que je suis sur le point de faire un grand saut dans les ténèbres. » Oui, une journée. Pardon? Or, les dernières paroles de Jésus, elles sont bien plus profondes que celles de ces hommes célèbres. Pourtant, Jésus était le Dieu de l'univers qui a été fait homme, chargé d'administrer le règne de Dieu. Et dans ce contexte d'agonie, j'aimerais bien, parce que quand on lit la Bible, on ne voit pas toujours le contexte dans lequel ça se passe. Jésus ne dit pas comme ça ses paroles comme Voltaire sur un lit d'hôpital, ou son propre lit, ou Hobbes. Il était attaché à la croix. Et le supplice de la croix est quelque chose de particulier, c'est que quand on est attaché à une croix, comme Jésus l'a été, eh bien, c'est les poumons qui n'arrivent plus, vous n'arrivez plus à respirer. Quels sont ceux qui ont déjà expérimenté des difficultés de respiration? Voilà, donc vous pouvez comprendre, sinon on peut pas comprendre, hein. Moi aussi j'avais une double embolie et je sais que quand on n'arrivait plus à respirer, ça fait bizarre, hein. Bon, bien sûr la souffrance c'est terrible, mais je veux dire la respiration c'est assez particulier, vous sentez que la vie s'en va, voilà. Et Jésus était dans cette condition, mais alors à l'extrême, hein, parce que pendu comme ça, ou chaque respiration, voilà, vous avez l'impression que le souffle s'en va, etc. Donc il est dans cette agonie. Et c'est dans cette agonie, et quand vous êtes dans une souffrance où vous sentez que la mort est là, eh bien, vous avez une capacité de concentration qui est assez faible, si ce n'est que vous vous concentrez sur la douleur. Hein. Mais là, on voit que Jésus a pensé à d'autres, pas qu'à lui. Voyez-vous ? Donc, il faut bien replacer ces paroles que Jésus a prononcées dans un contexte de cette agonie de souffrance où ces paroles s'adressaient à d'autres. Et à qui elles se sont adressées? La première parole qu'il a prononcée, elle s'est adressée d'abord à un certain nombre de personnes que je vais citer tout à l'heure où il a dit « Père, pardonne-leur ». Il a pardonné un certain nombre de personnes. La deuxième parole qu'il a prononcée, elle s'est adressée au larron qui était à côté de lui et s'est occupé de lui. La troisième parole, c'est Marie, sa mère. Parce que Jésus avait des frères et des sœurs, hein, mais qui n'étaient pas à la croix. Vous voyez, là, Hélène était partie pour l'enterrement, là, Yves va voir sa mère et tout ça, les enfants sont là. Jésus, quand il est mort, bah ses frères et sœurs n'étaient pas là. Où est-ce qu'ils étaient? Oh, ils l'ont renié. Il n'y a que sa mère, parce que la Bible dit bien qu'il y avait des frères et sœurs. Hein. Donc on peut se poser la question. Et sa mère était là, et Jésus a eu pris soin de sa mère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale. Hein. Il n'y avait pas Amélie. Hein. Il fallait que quelqu'un s'occupe des parents et tout ça. Et comme les frères et sœurs étaient pas là, Jésus avait pris soin en disant à Jean, eh bien, voilà ta mère. Et à mère, voilà ton fils. Vous voyez, Jésus a pris soin de sa maman biologique, enfin, terrestre. Ensuite, après, il s'est adressé à Dieu, son père. Ensuite, il a exprimé la soif, on va le voir tout à l'heure. Et ensuite, une parole extraordinaire, tout est accompli. Et ensuite, après, il a remis son esprit entre les mains de son père. La première parole, revenons à la première parole, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Jésus aurait pu agir différemment, puisqu'il a été condamné injustement. Il a été condamné complètement alors qu'il était innocent. Eh bien, Jésus a voulu pardonner à ses bourreaux. Il aurait pu les accuser, il aurait pu dire, voilà, c'est injuste ce qui m'arrive. Eh bien non, eh bien, il pardonne à ses bourreaux, là sur la croix. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Jésus, qui aurait pu, en tant que Dieu puissant, un créateur de l'univers, eh bien, il aurait pu détruire ses bourreaux par un souffle simplement de sa bouche. Mais il a plutôt accepté de porter sur lui la croix de tous les péchés des hommes, y compris ses propres bourreaux. Et ça demandait du courage, de courage pour le Seigneur. Il s'en est pas pris à ses bourreaux. Il a pris compassion d'eux, parce qu'il a dit ils ne savent pas ce qu'ils font. En effet, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils étaient en train de faire. Mais en même temps, ce qu'ils faisaient, ils faisaient la volonté du Père, tout en étant injustes dans leurs attitudes. Pour qui donc Jésus est-il intercédé? D'abord, pour ses bourreaux, j'en ai parlé, mais pour les chefs religieux du peuple aussi. Les chefs qui l'ont amené à être crucifié, hein, qui se sont acharnés contre lui vis-à-vis des autorités publiques, que ce soit les pharisiens, les sadducéens. Les chefs religieux ont cherché dès le début, par jalousie, parce qu'il avait plus de succès qu'eux, à le faire mourir. Il a prié, il a aussi intercédé pour les soldats romains qui étaient là, qui l'ont livré à la mort et qui ont reconnu son innocence. Il a prié pour eux. Il a prié pour les gens du peuple qui, par crainte des autorités religieuses, parce qu'ils étaient bannis de la société juive, s'ils compatissaient pour Jésus, ils ont demandé à Pilate de leur libérer Barabbas plutôt que Jésus. Jésus leur a pardonné à la croix. Et il nous a pardonné. Nous, aujourd'hui, qui avons péché, eh bien, nous aussi, nous avons été pardonnés à la croix, parce que il l'a fait pour toutes les générations qui allaient venir. Alors, Jésus a-t-il été exaucé pour cette demande de pardon? Oui, parce que Jésus est toujours exaucé par son Père. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui que les chefs religieux, dans Actes 6, sont venus en grand nombre à Jésus, dans l'Église primitive. Les soldats romains, ils ont reconnu que Jésus était vraiment Dieu, Matthieu 27, 54. Les gens du peuple aussi sont venus à Jésus après sa résurrection, désemparés, après avoir entendu les discours de Pierre. Eh bien, il y en a 3000 qui se sont convertis ce jour-là. Et nous, qui sommes croyants, nous aussi, eh bien, nous avons la preuve que Dieu a exaucé Jésus parce que nous nous sommes sauvés. Nous avons pu accepter le salut. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Regardez combien de personnes dans votre propre famille, parfois des conjoints aussi, qui n'arrivent pas à accepter Jésus. Et nous qui avons pu accepter Jésus, c'est une grâce. Il n'y a pas d'orgueil à tirer de ça. C'est simplement dire merci Seigneur parce que tu as touché mon cœur et j'ai pu t'accepter, j'ai été pardonné. Jésus ajoute, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. En effet, quand on s'oppose à Jésus, on ne sait pas ce qu'on fait. Voyez-vous, on ne sait même pas ce que c'est que la vie. On cherche la vie dans l'eau, alors que la vie est dans Jésus. Donc, c'est vrai que c'est triste, mais il faut prier, il faut que nous intercédions pour nos contemporains, pour qu'ils puissent réaliser la folie de ce qu'ils font, et qu'ils passent à côté de la vie véritable. Ça, c'est la première parole de Jésus. La deuxième parole de Jésus, nous la trouvons dans Luc 23, 43, où Jésus dit, je te dis, donc quand il s'adresse au larron, parce qu'il y en avait deux, hein, de chaque côté, il y en a un qui a blasphémé et l'autre qui a reconnu que c'était juste qu'il ait été condamné parce qu'il a payé pour ses crimes. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi Jésus dit ça à ce larron? Bien, ça montre clairement l'importance que Dieu attache à la repentance. Voyez-vous, cet homme s'est vraiment repenti profondément. Il a reconnu ses crimes. Il s'est pas rebellé contre l'autorité injuste des Romains qui l'ont mis sur la croix. Il a reconnu. Voyez-vous? Et c'est le contraire du déni. Et les psychologues disent tous, quand on est dans le déni, on peut pas guérir. Et dès qu'on sort du déni, on reconnaît, il y a déjà la guérison. J'aime bien Scott Peck, c'est un livre, il a écrit plusieurs livres, un psychiatre américain, et il dit que il avait une femme, enfin, il donne juste un exemple, hein, mais toute sa vie était psychiatre, une femme qui pendant 4 ans, il n'a pas réussi à l'aider, et à la fin, il s'est un peu moqué de lui, parce qu'en fait, il a dit, ah, je vais chercher un autre psychiatre parce qu'il voulait pas être guéri. Et un homme qu'il avait, au départ, il n'a pas bien compris. Le jour où il a saisi ce qu'il voulait dire, le psychiatre, il est sorti du déni. En 3 séances, il a été guéri. Ça va très très vite. C'est le déni. C'est de dire non, c'est pas vrai. Ça, ça bloque complètement une personne. Eh bien, le larron, le mauvais larron, il a reconnu ses erreurs, il a reconnu ses péchés, pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes, et il l'a reconnu, et Jésus a apprécié cette reconnaissance, cette vérité, cette authenticité dans cet homme. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Jésus a pensé à ce malfaiteur qui était à côté de lui, mais qui a manifesté une repentance et une foi. La troisième parole, c'est « Femme, voilà ton fils ». Et il dit « Voilà ta mère ». Donc, il présente entre Jean et Marie, la mère, pour que Jean puisse prendre soin de sa mère. Il se préoccupe des autres. Il se préoccupe de l'avenir de sa maman. lorsqu'on souffre, comme je le disais, on a du mal à penser aux autres, à penser à autre chose qu'à sa souffrance. Et on s'étonne que Jésus, suspendu à cette croix, en train de suffoquer, eh bien, il a ce réflexe de penser à ses arrangements pour sa mère. Et nous voyons là parce que vous voyez, Marie a beaucoup souffert. Hein, et elle a souffert d'avoir Jésus qui a été rejeté par la société. Elle a souffert d'avoir un enfant qui n'était pas de Joseph. Donc il fallait qu'elle puisse se présenter dans la société avec cette incompréhension de la venue de cet enfant. Quand Siméon a tenu le bébé dans les bras, et il avait dit à Marie, cet enfant sera un jour comme une épée qui te transpercera l'âme. Voyez-vous? Rappelez-vous que Marie n'a pas compris non plus le ministère de Jésus. Elle s'est opposée à un moment donné parce que sa famille commençait à avoir des difficultés. Ce qui fait aussi que les frères et sœurs ont quitté Jésus parce que ils étaient les quolibets de la société à l'époque. Dans Matthieu chapitre 1er verset 19, il est dit que Marie avait d'abord souffert lorsqu'elle est devenue enceinte et elle fut soupçonnée d'infidélité à Joseph. Dans Matthieu chapitre 2 verset 16, elle avait sans doute beaucoup souffert qu'Hérode avait dans son désir d'éliminer tous les bébés, voyez-vous, à cause de Jésus. Donc vous voyez, c'est une femme qui a souffert dans sa vie d'avoir été la mère de Jésus. Et là, elle est encore au pied de la croix où elle voit Jésus qui est transpercé par les soldats romains qui lui envoient des lances, des coups pour l'exécuter, pour le tuer. Marie était veuve et abandonnée aussi elle-même par ses propres enfants. Et là, Jésus prend soin d'elle. Et il arrange les choses pour qu'elle puisse passer une vie heureuse. On dit que Marie a terminé sa vie à l'île de Patmos avec Jean, l'apôtre Jean, qui je crois est arrivé à 100 ans, 99 ans. Jean a vécu très très vieux. C'est le dernier apôtre qui est mort. Et Irénée de Lyon, d'ailleurs, ceux qui sont de Lyon, qui était le premier évêque à Lyon, le premier épiscope à Lyon, il tenait au travers de Tertullien un fragment. Un fragment, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Mais il tenait de la main de Tertullien le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et Jean, c'est celui qui nous a laissé le témoignage de cette affection profonde avec Jésus. Et donc, c'est Jean qui s'est occupé de sa mère, grâce à cette parole que Jésus a prononcée sur la croix. La quatrième parole que Jésus a prononcée, c'est « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voyez-vous, c'est le cœur de la vie et de la mort. Là, on est au cœur de la vie et de la mort. Pourquoi Jésus est mort ? Parce que il a été séparé de son père. Il n'est pas mort parce que son corps vieillissait, il aurait été Dieu. Donc son corps, il aurait pu le régénérer comme il veut, juste d'une parole. C'était le Logos. Mais il est mort parce que il a été séparé de Dieu. Et ce sont nos péchés qui l'ont séparé. Voyez-vous, la seule explication, c'est nos péchés, parce qu'il a porté nos péchés sur la croix, et le péché sépare de Dieu, parce que Dieu est saint, comme nous l'avons chanté, et le péché, il ne peut pas exister, et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, toute notre vie, nous aurions une vie de misère, une vie éternelle de misère avec le péché. Mais le péché n'existe pas dans le royaume de Dieu, et en recevant le péché, en acceptant le péché sur lui, eh bien, il a été séparé de Dieu. Et la mort, eh bien, s'est emparée de lui. La mort est venue dans son corps à cause de cette séparation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il savait que c'était, comme Ésaïe le dit dans Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, était meurtri à cause de nos iniquités. Voyez-vous, dans la vie de Jésus, jamais à un moment donné, il a eu un instant de séparation avec Dieu. Il était toujours dans la communion intime avec son Père. Et c'est ça qui lui donnait la vie, qui lui donnait la vie au-delà de tous ceux qui l'entouraient. Il pouvait procurer la vie. Il pouvait donner la vie aux malades, il pouvait donner la vie à tous ceux qui l'entouraient. La vie passait au travers de lui, parce qu'il était en communion avec son Père. Jésus avait dit à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'apôtre Jean reprend la même idée dans sa lettre où il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez-vous, le corollaire de cette croix, eh bien, c'est que nous aussi, nous devons donner la vie. Et c'est là, c'est la vie du disciple. La cinquième parole, Jésus a dit, j'ai soif, j'ai soif. On revient à l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'absolument indispensable pour le corps. C'est vrai pour que la vie biologique puisse exister. Et Jésus a dit, celui qui est la source de vie, Jésus est la source de vie, il a dit à la Samaritaine, il a dit, toi tu puisses de l'eau, mais moi je te donne la vie, l'eau de la vie éternelle. Et bien là, il avait besoin de boire et on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Il a souffert, mais il a souffert en simple homme. Enfin, il a donné une autre parole, la sixième, tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a fait une œuvre parfaite. D'autres traductions disent que tout est fini, tout est achevé. Alors, qu'est-ce qui est vraiment achevé? Alors, il y a six choses, ou sept choses, qui sont vraiment accomplies. C'est un, la séparation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de séparation. Rappelez-vous, au moment, juste avant la mort, il y a le voile du temple qui se déchire. Et ce voile empêchait les sacrificateurs d'aller dans le lieu très saint. Qu'une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait y aller. Avec des rites de purification, etc., etc. Et nous savons qu'aujourd'hui, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et Jésus nous permet d'entrer directement dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus a dit « Tout est accompli ». La séparation entre Dieu et l'homme n'existe plus à condition d'accepter Jésus. Il a renversé le mur de séparation, dira l'apôtre Paul. Il a ouvert le ciel. Il y a un accès direct à Dieu le Père grâce à la mort de Jésus. Parce que il a pris la mort sur lui. Il a pris la séparation sur lui. Et c'est ça qui est accompli. La deuxième chose qui est accomplie, c'est les meurtrissures du péché. Nous ne sommes plus obligés de vivre dans le péché. Quand on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas faire autrement que de pécher. Le problème, c'est que les chrétiens aussi pêchent, parce qu'ils sont pas tout le temps en Jésus, voyez-vous. Donc ça, c'est le combat du chrétien. Le chrétien n'est pas meilleur qu'un inconverti, qu'un païen. Il devient même pire s'il fait pas attention, parce qu'il peut spiritualiser les choses. Et les gens, s'ils spiritualisent, ils deviennent pires, parce qu'ils peuvent même faire des atrocités au nom de Dieu. Et ça, on l'a vu. Mais ça, c'est la nature humaine du chrétien et du païen. Mais le païen, il est esclave, et nous sommes esclaves du péché si nous n'avons pas recours à Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut demander la grâce, c'est pour ça qu'il faut être dans la communion fraternelle pour accepter les corrections, accepter d'être repris, etc. Parce que nous sommes faillibles et que nous devons faire marcher de progrès en progrès. Et parfois, nous faisons des progrès et hop, nous rechutons. C'est le lot de notre corps et de notre âme qui est affectée par le péché. Mais globalement, nous ne sommes plus obligés. Et dans notre esprit, nous ne pouvons plus pécher. C'est ça qui est extraordinaire. Le chrétien, il est dans deux mondes. Il est la tête au ciel et les pieds sur la terre. La tête au ciel, c'est il a accepté Jésus. Donc il a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Donc nous avons une puissance. Autant les personnes inconverties, ils ont une excuse. Ils ne peuvent pas arrêter de pécher parce que ils n'ont pas d'aide. Nous, on a l'aide du Saint-Esprit. Donc on a une responsabilité. Le chrétien est responsable de ses actes, parce qu'il a la capacité, le moyen de demander au Saint-Esprit de l'aider. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. le puissant de la vie qui nous aide à faire des progrès, à marcher des progrès. Moi, je dis quand un chrétien ne fait pas de progrès, c'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il y a un contre-témoignage. Il y a un contre-témoignage. Chaque chrétien doit faire des progrès. S'il est en contact avec Dieu et avec le Saint-Esprit qui est en lui, il va faire des progrès. Donc, ceux qui attendent des progrès de leur conjoint, rassurez-vous, il y a de l'espoir, mais de chaque côté. Hein. Mais ne cherchez pas les défauts chez d'autres, parce qu'il y en a chez vous aussi. Hein. Ne cherchez pas la poutre qui est ou la paille qui est dans l'autre, alors qu'il y a une poutre chez vous. Simplement, tous nous sommes en progrès. C'était un peu notre thème de l'Église il y a une dizaine d'années. Nous sommes tous en progrès. Et rassurez-vous, moi aussi j'ai besoin de faire des progrès, il suffit de demander à ma femme. Hein. On a tous besoin de faire des progrès, peut-être pas au même niveau, parce que voilà, on a un chemin derrière nous, mais on peut faire des paliers aussi. On fait des progrès, on s'arrête. Ce qui est embêtant, c'est quand on descend, parce qu'il faut remonter. Mais bon, on connaît un certain nombre de choses, donc on peut gagner du temps. Mais on a tous des progrès à faire, hein, parce qu'on a la puissance du Saint-Esprit avec nous. Et ça, Jésus a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que dans les meurtrissures du péché que Jésus a reçu à la croix, eh bien, nous avons la victoire et nous avons les facultés de faire des progrès dans chacune de nos vies. Amen. Le péché ne peut plus vivre en nous si nous ne le voulons, si nous acceptons la facture qui a été payée par Jésus. Le troisième point de ce qui est accompli, c'est notre condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Vous n'avez plus besoin d'être victime. Vous n'êtes plus des victimes. Vous n'êtes plus des victimes. Dites-le vous. Vous n'êtes plus des victimes. Vous êtes vainqueur en Jésus-Christ. Et quelqu'un qui est vainqueur, il regarde pas derrière, il regarde devant. Il regarde les conquêtes, il regarde ce qu'il faut améliorer, il regarde ce qui va mieux, etc. Voyez-vous? Et ça, c'est accompli. Jésus nous a donné la possibilité de ne plus être victime. Là aussi, je reviens au psychologue, psychiatre qui vraiment se désespère de clients qui tout le temps reviennent en disant « oui, il m'a fait ceci, oui, je me sens ceci, oui, je me sens… » Ils sont toujours victimes de la société, victimes des autres, etc. Et ils ne peuvent pas faire de progrès dans le monde. Mais nous qui sommes chrétiens, bien Jésus a dit « tout est accompli, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hein, » dites-le-vous, il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes simplement amené à prendre la victoire que Jésus a acquise pour vous. Ça a été fait. Qu'est-ce qui a encore été accompli? C'est notre faiblesse humaine. Regardez l'apôtre Paul. Il a été persécuté comme aucun d'entre nous ne le sera jamais. Jamais, jamais, jamais. Je sais que vous avez des difficultés, je sais que le monde aujourd'hui amène des difficultés, que ce soit au travail, n'importe où, mais jamais vous pouvez avoir des difficultés comme l'apôtre Paul. Et pourtant l'apôtre Paul, eh bien regardez la manière dont il se relevait. Hein. Lapidé comme mort, ils l'ont laissé à la sortie d'une ville. Et puis après, vous lisez le verset suivant, il est reparti. Et hop, il est allé dans une autre ville. Rien ne pouvait l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur la puissance et la force de Dieu. La force du Saint-Esprit. Il ne le faisait pas avec ses propres forces. Il pouvait être déprimé, il aurait pu être au fond du trou comme Élie, il aurait pu avoir des maladies de toutes sortes et tout ça. Bon, il était certainement malade aussi. Mais on voit que c'est un homme qui compte sur la force de Dieu. Sur la force du Saint-Esprit. Pour aller de l'avant. Vous voyez? Donc, ce qui a été accompli, c'est que notre faiblesse humaine, eh bien, maintenant, on peut avoir la force de Dieu. Amen. La force du Saint-Esprit. Amen. La cinquième chose qui a été accomplie, c'est le pouvoir de la mort a été détruit. Et dans Apocalypse, il est dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Parce que la mort nous atteint encore. Jésus, il ne l'atteint plus. Jésus a fait son parcours. Jésus a symbolisé l'homme nouveau. L'homme nouveau, le nouvel Adam, la nouvelle race, Jésus l'a symbolisé. Et lui, il a passé de la mort à la vie. Mais nous aussi, nous passons de la mort à la vie. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Notre mort physique, elle a un pouvoir, simplement parce que c'est de l'ancien héritage, mais notre nouvelle vie que nous avons en Jésus, elle ne peut pas mourir, puisque c'est notre communion avec le Seigneur qui est éternelle. Amen. Donc, le pouvoir de la mort a été détruit. C'est pour ça qu'on peut aller devant la mort. Bien sûr, c'est triste parce qu'on perd des amis, on perd des amitiés, notre âme souffre. Mais c'est la victoire. Et Paul disait, j'hésite avec tout ce que je vis. Est-ce que je préfère demander au Seigneur de m'enlever ici-bas et je souffrirai plus? Mais il a dit non, parce que ma course n'est pas finie. Parce qu'il faut que je termine ce que Dieu m'a demandé. Il était quelqu'un qui était attaché à sa mission. Mais sinon, la liberté, c'est vraiment de partir avec la mort biologique, la mort physique, pour rejoindre la vie éternelle. Et le sixième point, c'est la puissance du diable. Jésus a accompli tout à la croix. Il a enlevé la puissance du diable. L'aiguillon de la mort, c'est le diable. Et quelle est la puissance du diable? Quelle est la puissance du diable? Quelle est la réelle puissance du diable? Est-ce que c'est ce que tout le monde craint, où il met des talismans un peu partout, des fers à cheval, des trucs, etc., pour se protéger des puissances extérieures? C'est quoi? Oui, il y a le mec qui se lève là-bas. C'est quoi la puissance du diable? Quand tu fais trop de péchés? Ah, alors là, t'es dans la culpabilité. Non, t'es vainqueur. Le péché n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a un pouvoir du diable. Ah, t'es pas loin? T'es pas loin? Le vrai pouvoir du diable, c'est quoi? Allô? Ouais, c'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Le seul pouvoir, c'est le mensonge. Le vrai pouvoir du diable, c'est le mensonge. Voilà, fait douter à cause du mensonge. La puissance du mensonge. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, déjà des tout petits, ceux qui ont des petits enfants, le mensonge, c'est un peu comme du piment, vous voyez, c'est comme du poivre, c'est comme du piment dans les aliments. C'est beaucoup plus agréable le mensonge que la vérité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je peux pas développer cette idée-là, mais réfléchissez un petit peu. Pourquoi? Parce que le mensonge a quelque chose, je sais pas, d'un rêve, d'un truc, vous voyez, etc. Et la vérité simple, bof. Vous voyez, et ça, le diable, il sait l'exploiter, ça. Il sait vous mettre en appétit avec du mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, pour les petites filles, va raconter les princesses, les machins, c'est joli. Pour les gars, pour autre chose, etc. Enfin, le mensonge, c'est vous faire entrer dans un monde de rêves. Voyez-vous? Et là, il a une certaine puissance. Regardez dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu a dit que tu ne mourras pas, c'est vrai, c'est un demi-mensonge. Parce qu'en fait, la mort est pas venue tout de suite, ils ont dû attendre 100 ans pour mourir, vous voyez. Mais sur le coup, il s'est rien passé, ce qui fait qu'Adam, il était confiant, il a dit, Ève, sa femme a dit, attends, t'as vu, moi, je suis pas mort, j'ai pris la pomme, c'est pas une pomme, c'est un fruit. Et voilà. Et voilà, t'es tombé dans le mensonge. Voyez-vous, le mensonge est quelque chose d'absolument incroyable, qui a été développé par Satan, pour que on ne croit pas la vérité de la parole. La vérité de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est le mensonge contre la vérité. Et ça, c'est une puissance. Et ça, Jésus, il l'a détruit à la croix. Regardez Jésus, quand il a été confronté avec Satan. Satan était astucieux, hein. Il a dit, ah, mais tu sais, si tu fais ça, je te donne tous les royaumes du monde. Si tu fais ça, tu peux manger, là, 40 jours, t'as jeûné, t'as prié, etc. Oui, il aurait pu tomber dans, parce que le diable utilise toujours des moments de faiblesse et vous fait miroiter des choses que vous avez envie. Et il sait le faire par du mensonge. Parce qu'il vous cache une partie de la vérité. Et dès que vous avez fait l'acte, c'est fini. Vous êtes coincé. Il est expert. Eh bien, ça, c'est terminé. Et un chrétien devrait être toujours appuyé sur la vérité. Parce que la vérité, elle libère. La vérité, elle transforme. La vérité, elle change les choses. La vérité nous fait établir sur le roc de la parole. Amen. Et c'est par la vérité, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et dernière chose qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Jésus s'est remis entre les mains du Père. Son sort a été laissé à son Père parce qu'il savait que c'est son Père qui allait le ressusciter. Il savait qu'il allait être ressuscité. Et il a dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Amen. J'étais très heureux quand mes parents m'ont persécuté, quand je me suis converti. Ils étaient très, très, très catholiques. Et toute ma vie, j'ai un peu souffert. Et quand mon père est mort, j'ai découvert, avec une main tremblante, quelques jours avant, il avait écrit sur un testament, « Je remets mon esprit entre tes mains ». Je dis, waouh, super. Il a compris que il remettait son esprit. Donc ça, c'était ma consolation. Hein. Parce que bon, il était voilé par ailleurs, par la religion, mais il aimait Dieu, mais voilà, pour lui, c'était une autre voie que celle que j'avais choisie. Mais il a remis son esprit entre les mains du Père. Et Jésus l'a fait. Jésus a remis son esprit entre ses mains. Et notre esprit est vraiment dans les mains du Seigneur. Et l'esprit, c'est la vie. C'est pas l'âme immortelle, hein. Ça, c'est de la philosophie de Platon, hein. La philosophie du monde. C'est l'esprit qui est éternel. Et il donne la vie à notre âme. Mais c'est l'esprit qui est éternel. C'est Dieu qui est la vie et il nous donne son esprit. Et quand nous recevons son esprit, nous recevons la vie. Amen. Je vous invite à prier pour que ces paroles que Jésus a dites à la croix puissent aussi, eh bien, nous aider à vivre la vie chrétienne aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te louons parce que tout ce que tu as fait à la croix s'est accompli. Et Seigneur, tout est accompli. Nous avons tout pleinement. Seigneur, tout ce que l'homme et que l'humanité a détourné, a tordu, Seigneur, toi tu l'as redressé. Toi, tu l'as rétabli, Seigneur. Et en toi, Seigneur, nous avons la vie, la sécurité, le mouvement et l'être. Et nous te louons, Seigneur, parce que nous pouvons être sur un chemin solide, Seigneur, sur le roc de ta parole, sur la vérité qui libère. Et nous te louons pour cela, Seigneur, et nous te remercions. Donne-nous d'être des chrétiens, des chrétiennes, Seigneur, vraiment, qui pouvons porter l'étendard de la croix, Seigneur, qui n'avons pas peur de la croix, Seigneur, même si elle est difficile, nous savons que c'est à la croix que tu as acquis toutes ces choses. Et Seigneur, tu as dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Eh bien, Seigneur, que ce soit notre désir de prendre la croix, afin que nous puissions avoir les mêmes victoires que toi tu as eues, Seigneur, parce que tu nous as précédés et tu nous rends vainqueurs. Merci Seigneur pour ton esprit que tu nous donnes librement, largement Seigneur, pour pouvoir te servir. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.